Et nous allons lire ce matin le texte dans 1 Corinthiens 15, donc les versets 50 à 58, et ça se trouve page 754 dans les Bibles blanches. Je lis donc à partir du verset 50. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Et jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, quand on est jeune, on a l'impression d'être indestructible. La mort est une réalité bien lointaine. Mais au fur et à mesure des années, on commence à en voir ses effets. La dégénérescence du corps, on ne peut pas courir aussi vite qu'avant. On se fatigue plus vite et ça ne va pas trop en s'arrangeant. Et puis, il y a aussi des proches qui s'en vont. Et moi-même, en 10 ans, j'ai vu partir successivement ma mère, mon père et mon beau-frère. Alors, je peux vous dire une chose, les jeunes, la mort est bien réelle. On ne peut pas échapper à sa réalité. Et comment alors ne pas sombrer dans le désespoir? Et notre société a trouvé une méthode pour y échapper, c'est le divertissement. Tant qu'on est diverti, on ne pense pas à la mort. Et lors de mes études, j'ai dû faire un exposé sur un livre fort intéressant qui s'appelle « Histoire de la mort en Occident » de Philippe Ariès. Et voilà ce que dit l'auteur. La mort autrefois était une tragédie, où on jouait à celui qui va mourir. Mais aujourd'hui, la mort est une comédie, où on joue à celui qui ne sait pas qu'il va mourir. Et la société a aussi une autre méthode aujourd'hui pour oublier la mort, c'est de cacher les mourants. Il est écrit dans ce livre qu'avant, le mourant était à la maison, entouré de sa famille et de ses proches. Et quand il sentait la mort venir, il convoquait sa famille, ses amis, et il présidait lui-même à sa propre mort, le lit siégeant au milieu de la pièce principale. Et puis il pouvait donner ses dernières volontés, ses dernières paroles. Alors qu'aujourd'hui, bien souvent, on meurt dans une pièce isolée à l'hôpital. La réalité de la mort nous est le plus possible cachée. Mais bon, on a beau tenter par tous les moyens d'échapper à cette réalité, elle nous saute un jour ou l'autre à la figure. Et il y a une méthode qui consiste donc à masquer la réalité de la mort. Il y a une autre qui consiste à proclamer la victoire future sur elle, sans nier la réalité de la souffrance présente, de proclamer la victoire future sur elle. Et à l'enterrement de ma mère, le maître de cérémonie a eu ces mots, ces premiers mots, donc, pour débuter la cérémonie. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton dard? Alors, on peut se demander comment il est possible ainsi de narguer la mort, ainsi le jour de la mort, le jour de son triomphe. Est-ce que ce n'est pas un peu déplacé? Est-ce que ce n'est pas aller un peu trop loin? Le corps qui gît dans le cercueil devant est manifestement sans vie. Pourtant, la Bible et l'apôtre Paul, dans ce chapitre, se permettent de narguer la mort et même d'affirmer la victoire sur elle. Ils narguent la mort au point de proclamer la résurrection physique des corps. Est-ce donc possible que les morts ressuscitent dans leur corps? Et soyons honnêtes ce matin, je pense que même en tant que chrétien, il est bien difficile de croire qu'après la mort, nous allons ressusciter dans notre propre corps. Même en tant que chrétien, nous avons du mal à y croire, non ? Vous pensez pas que c'est dur d'y croire ? Comment est-ce possible ? Après tout, le corps se décompose bien vite, les molécules sont dispersées. On est bien plus prêt à croire dans la continuité de l'âme, que nous allons flotter éternellement au ciel, dans les nuages, désincarnés comme un esprit qui flotte. Un peu comme un fantôme, quoi. Peut-être que notre vision de la vie après la mort n'est pas bien éloignée des affirmations populaires. Il est parti rejoindre les étoiles. Il est quelque part au ciel, dans les nuages. Sur un nuage, vous voyez, avec une harpe. Alors, les Corinthiens avaient également, eux aussi, beaucoup de mal à croire dans la résurrection physique du corps. Et c'est pour ça que Paul a écrit ce chapitre 15. Et pour y voir plus clair, il va falloir revenir un peu avant le texte que nous avons lu. Et déjà, quelles sont les questions que se posaient les Corinthiens? Quelles sont les questions qui se posaient? Alors on voit au verset 12. Comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Donc apparemment, certains dans l'église disaient « Ben non, il n'y a pas de résurrection des morts. » Verset 35, voilà la question que se posait beaucoup dans l'assemblée. Comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Les Corinthiens avaient beaucoup de mal à croire dans la résurrection du corps. Ils avaient du mal parce qu'ils méprisaient tout ce qui était matière, y compris le corps humain. Par contre, ils idéalisaient tout ce qui était immatériel. L'esprit, l'âme, la pensée, le monde des idées. Ça, c'était bien, c'était pur. Mais tout ce qui était matériel, tout ce qui était chair, c'était méprisable. Ils ne pouvaient pas concevoir un avenir éternel, divin, avec encore la présence de la matière. Et pire encore, la présence des corps. Ils trouvaient donc que la résurrection des corps était une idée stupide et méprisable. Alors, quelle est la réponse de Paul? Il répond, regardez. Regardez à la résurrection du Christ. Car Christ est le prémisse. Et c'est ce que nous lisons au verset 20, dans ce chapitre. « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Alors, si vous lisez le texte dans la Bible, vous êtes dans la version que vous avez, vous allez voir que vous n'avez pas ce mot de prémisse, vous avez le mot « il précède ceux qui sont morts », parce que le traducteur a voulu être plus clair dans sa traduction. Mais c'est important de garder le mot de prémisse. Pourquoi ? À cause de la signification de ce mot de prémisse. Et là, on voit, hein, c'est le printemps, il fait beau, il y a du soleil, les arbres sont en fleurs, et les premiers fruits sortent. Et si vous êtes un agriculteur, eh bien, vous allez aller dans votre champ et vous allez aller voir la qualité des premiers fruits qui sortent. Et la qualité des premiers fruits qui sortent, c'est les prémices, c'est les premiers fruits. La qualité des premiers fruits qui sortent va vous donner le reste de la récolte. Si vous voyez des bons fruits sur les arbres, vous allez dire « mais 2017 va être une bonne récolte, il va y avoir des bons fruits pour toute la récolte. » Eh bien, pour la résurrection du Christ, c'est la même chose. En regardant à la résurrection du Christ, au premier fruit du printemps, nous savons que nous allons avoir une résurrection semblable à la sienne, c'est-à-dire une résurrection physique, corporelle. Et effectivement, dans les évangiles, on voit que Thomas, eh bien, a voulu toucher Jésus. Il a voulu vérifier par lui-même que Jésus était bien ressuscité corporellement. Et il a pu le toucher. Il a bien vu que ce n'était pas un esprit. Et les disciples aussi étaient sceptiques. Ils ont voulu manger avec Jésus. Alors, ils ont fait un barbecue avec du poisson. Et Jésus a bien mangé, il a pris du poisson, il a mangé. Christ est donc le prémisse, c'est-à-dire le premier fruit. Et à partir de ce premier fruit, nous savons que nous ressusciterons également dans notre corps. Alors peut-être qu'une raison qui nous fait tant douter de la résurrection du corps, le fait que nous regardons cela avec si peu d'enthousiasme, c'est que nous souhaiterions bien souvent échapper à notre corps, à cause de nos défauts physiques peut-être, à cause des souffrances qu'on peut vivre dans la chair, à cause de la maladie, à cause des cicatrices de la vie, des souffrances mentales, psychologiques qui nous atteignent. Notre corps vieillit, notre vue baisse, des douleurs apparaissent. Et quand on a des douleurs vives, la seule envie qu'on a, c'est de s'échapper de ce corps, de s'échapper de ses souffrances. Et cela ne donne pas forcément très envie de renaître dans un corps sujet donc à ces douleurs, à cette souffrance. Alors Paul parle donc d'une continuité, on l'a vu. Nous ressusciterons dans notre corps, mais il parle également de transformation. Il parle, au verset 50, qu'il est inconcevable que notre corps corruptible, c'est-à-dire sujet à la mort, à la maladie, à la dégénérescence du corps, il est inconcevable que ce corps puisse hériter du royaume de Dieu. D'où la nécessité d'une transformation dont il parle au verset 51. Il dit « Nous serons tous transformés, que ce soit les morts ou les vivants, c'est-à-dire si Jésus revient demain, bah, nous n'allons pas mourir parce qu'il est là, mais nous allons tous être transformés. » Il précise juste après ce qu'il veut dire par là. « Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Alors Paul utilise ici l'image d'un vêtement, hein, d'un vêtement qu'on revêt, qu'on met. Il s'agit que notre corps revête l'incorruptibilité. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que nous ressusciterons glorieux. Nous ressusciterons pleins de force. Il y aura transformation. Et donc nous ne serons plus corruptibles, dans le sens que notre corps ne sera plus sujet aux effets de la vieillesse et de la mort. Le corps physique ne va plus dégénérer. Et on peut imaginer qu'on aura bien plus de capacités qu'aujourd'hui. On aura un corps plein de force, même si ce serait de la spéculation de rentrer plus, d'essayer de rentrer plus dans les détails à ce propos. Mais Paul utilise, avant le passage que nous avons vu, des images de la nature autour de nous pour dire que Dieu est capable de transformer des corps physiques. Il est bien capable de cette transformation. Regardez la petite graine qui se transforme en arbre géant. Alors on pourrait imaginer d'autres images. Regardez à la chenille qui se transforme en papillon. Hein. Je ne sais pas si la chenille donne beaucoup envie, j'ai pas envie de mépriser les chenilles. Mais bon voilà, ça rampe péniblement sur les arbres. Et puis il y a transformation. Ça se transforme en papillon. Et on voit, c'est flamboyant, hein, on voit toutes ces couleurs. Et puis voilà, tout d'un coup, ça vole. Il peut voler dans les airs. C'est flamboyant. C'est glorieux. Alors voilà, on peut être dans la douleur, sujet à des douleurs extrêmes. Il ne s'agit bien sûr pas de nier la souffrance présente. Et Dieu ne nous promet pas d'être délivré de nos douleurs aujourd'hui, mais au retour de Jésus. On voit bien que cette promesse de transformation est au futur dans le texte, au son de la trompette, c'est-à-dire dans l'imagerie de la Bible, au retour de Jésus. Alors, dans nos souffrances actuelles, peut-être pourra-t-on y repenser sur notre lit de mort. Regardons à ce jour glorieux, au retour de Jésus, où nous revêtrons ce corps glorieux, où nous serons délivrés de ce corps qui dégénère. Et alors, nous serons incorruptibles. Nous ressusciterons dans notre corps, mais transformés. Alors, qu'est-ce qui nous permet maintenant d'être assurés? Qu'est-ce qui nous donne l'assurance? Qu'est-ce qui me donne l'assurance? Qu'est-ce qui nous donne l'assurance dans cet avenir glorieux? Qu'est-ce qui nous permet d'être aussi sûrs de cela? D'où vient l'assurance de cette personne qui affirmait devant un cadavre, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton dard? Alors pour être sûr d'avoir un jour la victoire sur la mort, il faudrait d'abord savoir d'où vient la mort. Pourquoi mourons-nous? Alors dans la Bible, la mort n'est pas seulement un état physique, c'est pas seulement l'absence de vie d'un corps. La mort, dans la Bible, c'est l'état le plus profond de notre cœur. Vous êtes mort dans vos péchés, dit la Bible. Et elle parle au présent quand elle dit cela. La mort est une conséquence de notre désobéissance à Dieu. Et voilà ce qu'on lit au verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Alors essayons de visualiser la mort ici. Il y a beaucoup de représentations populaires de la mort. Et souvent, quand on représente la mort, quand on la personnifie, eh bien, on voit qu'elle a une faux dans la main parce qu'elle fauche. Mais dans ce texte, la mort est représentée avec un aiguillon, un dard. Et c'est comme la vive douleur de la piqûre de la guêpe, ça nous saisit. Ici, la mort est représentée avec un dard. Et cette arme de la mort, ce dard, c'est le péché. C'est notre péché. Mais qu'est-ce qui donne la puissance à ce dard? Parce que si le bras est sans puissance, eh bien, vous auriez beau avoir une arme dans la main, elle serait inoffensive s'il n'y a pas de puissance dans le bras. Alors, la puissance du bras de la mort, c'est la loi. Parce que la loi de Dieu nous condamne. La loi de Dieu nous condamne, et c'est ce qui donne sa force à l'arme de la mort. Voici la plus grande loi, dit Jésus, le plus grand commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et voici le second commandement qui va avec. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et même si ce matin vous ne vous sentez pas obligé d'aimer Dieu, il faut bien reconnaître notre incapacité d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et tout cela n'est qu'une conséquence, cette incapacité d'aimer son prochain comme nous-mêmes n'est qu'une conséquence de notre incapacité à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et la conséquence, c'est la mort de notre cœur. La mort de notre cœur qui nous amène naturellement à la mort physique. La loi nous condamne donc parce que nous sommes incapables d'aimer comme nous devrions aimer, parce que nous ignorons Dieu, notre Créateur, parce que nous sommes rebelles au plus profond de nous-mêmes. Pourtant, Paul parle ici de la victoire sur la mort. La mort a été engloutie dans la victoire, dit-il. Alors, est-ce notre victoire? Non. Le fait est que Jésus a pris sur lui ce dard qui nous était destiné. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, au tout début de ce chapitre, au verset 3. Christ est mort pour nos péchés. Jésus a pris sur lui le coup fatal de la mort. Il a subi ce coup à la croix, à notre place. Mais la mort n'a pas pu le garder. La mort, au fond, était sans puissance contre lui, parce qu'il n'a pas péché, parce qu'il n'a pas transgressé cette loi d'amour. Le bras de la mort était donc impuissant contre lui pour le retenir. Il a vaincu la mort. Il est victorieux. Et nous-mêmes, si Jésus ne revient pas d'ici là, nous allons mourir. Mais par notre union à Christ, par la foi qu'on est pécheur contre Dieu, et que seul Jésus est capable de nous sauver, par cette foi, la mort ne peut pas nous garder. Elle a perdu toute sa puissance. À tel point que le texte parle plutôt de la mort comme un sommeil pour le chrétien. Elle a perdu toute sa puissance. Et savez-vous que le mot cimetière vient d'une racine? Et cette racine veut dire dortoir. La racine du mot cimetière, c'est dortoir. Ce n'est qu'un sommeil qui passera. Alors revenons à cette cérémonie donc d'enterrement. Que fait donc cette personne quand elle parle de la victoire sur la mort? Elle ne fait qu'anticiper ce jour où Christ reviendra. Et on voit bien que le texte ici est au futur. On a vu que c'est un événement donc qui se déroulera quand Christ reviendra. Christ nous fera alors bénéficier de sa victoire sur la mort. Ce jour est certain, car Christ a déjà vaincu la mort lui-même. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui à Pâques. Il est ressuscité. Et il faut voir ça comme un héritage. Alors imaginez que vous avez touché un gros héritage. Vous avez touché un gros héritage. Mais pour l'instant, la somme est bloquée. Vous ne pouvez pas y toucher. Elle est quelque part dans un coffre. Il faut faire les démarches. Elle est bloquée. Vous ne pouvez pas y toucher. Et en attendant, vous avez des dettes. Et votre banquier, votre méchant banquier vient vous embêter. Et vient même jusqu'à saisir vos biens. Il vient chez vous avec l'huissier. Et il saisit tous vos biens. Et certes, la situation est très désagréable. Mais vous savez qu'elle n'est que passagère. Vous savez ce qui vous attend et ça change, ça va complètement changer votre perspective sur le présent, sur ce que vous vivez dans le présent. Et il pourrait même vous prendre d'aller jusqu'à narguer le banquier, lui dire « Ah, t'auras pas le dernier mot ». Alors c'est une image, hein, je dis pas que les banquiers sont tous méchants, ou que c'est une bonne chose, que c'est très intelligent ou très sage d'aller narguer son banquier. Et ici, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de matière qui se rouille, mais on parle d'un héritage éternel, d'un héritage qui ne flétrira jamais. C'est donc un enjeu, c'est un enjeu de vie ou de mort. Et il n'est pas ici question non plus de relativiser la réalité du deuil, de la souffrance. Il n'est pas question de relativiser les étapes du deuil, la prostration, le déni, la colère. Ce n'est pas ce que voulait dire cette personne quand elle proclamait « Mort, où est ta victoire ?» lors de cet enterrement. Cette personne connaissait bien la douleur présente de la mort. Mais cette personne anticipait parce qu'elle connaissait la foi de ma mère. Elle sait que la victoire est future et certaine. Regardez donc, regardez à la victoire du Christ. Il a vaincu la mort. Il nous fera partager cet héritage. Et ceci est sûr. C'est une assurance que nous avons. Je disais, je suis tombé sur une petite biographie dans la bibliothèque de Trevor. C'est un homme qui, apprenant sa mort à cause d'un cancer dans quelques mois, a décidé de partager ses pensées dans un petit livre. Mark a été diagnostiqué avec un cancer inopérable en décembre 2008. Pendant les 15 mois qui ont suivi, il a voulu partager autour de lui la bonne nouvelle de Jésus à toutes les personnes qu'il rencontrait. Il faisait face à sa mort imminente avec confiance, à cause de la confiance dans la résurrection de Jésus. Il s'est endormi dans la paix avec sa famille en avril 2010. À la fin, il ne pouvait presque plus parler. Il ne disait plus que des bribes de mots et il répétait ces mots. Bientôt à la maison. Ainsi, verset 58, « Mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas en vain. » Alors Paul nous appelle aujourd'hui à tenir ferme au verset 58. Et les Corinthiens, eux, ils croyaient qu'ils étaient déjà arrivés. Ils faisaient déjà la fête. Ils faisaient même n'importe quoi avec leur corps, valorisant uniquement ce qui est spirituel, et non charnel, et non matériel. Comme ils méprisaient tout ce qui était à la matière, comme ce n'était pas divin tout ce qui est matière, eh bien, ils se disaient, eh bien, on peut faire ce qu'on veut avec notre corps. Ils se livraient à la débauche. Mais Paul dit aux Corinthiens de ne pas faire n'importe quoi avec son corps. Il a dit plutôt, aux Corinthiens, il leur a dit plutôt Notre corps appartient au Créateur. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit ici, notre corps ressuscitera. Il est voué à un destin éternel. Même si aujourd'hui, il est voué à la souffrance et à la frustration. Tenez donc ferme, inébranlable, regardez à votre héritage. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Et dans notre église, nous étudions depuis quelque temps le livre de l'Ecclésiaste. Et ce qui paraît terrible avec cet auteur, c'est à quel point il est réaliste sur la vie présente. Vanité des vanités, dit-il, tout est vanité, tout est du vent. Qu'est-ce qui restera de notre travail sous le soleil? Qui se souviendra de notre labeur après la mort? Au fond, si la mort est l'ultime réalité, eh bien, rien n'a vraiment de sens. La vie n'a plus aucun sens. Qu'on soit bon ou mauvais, qu'on fasse des bonnes choses ou des mauvaises choses, nous sommes tous à égalité devant la mort. Et la mort effacera tout. On a vu à quel point on essaye aujourd'hui de fuir cette réalité à travers les distractions. Le temps qu'on peut perdre dans du rien, c'est hallucinant. Pourtant, le texte ici nous promet un travail qui n'est pas vain. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Regardez à votre héritage et proclamez cet héritage, cette grande nouvelle. Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité. Et joyeuse Pâques à tous.